Donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission, dans l'émission Sortir du capitalisme, avec notre invité, Guillaume Davranche, militant et historien libertaire, auteur de Trop jeune pour mourir, ouvrier et révolutionnaire face à la guerre 1909-1914, paru aux éditions Libertalia et l'Insomniac en 2014 et réédité cette année. Et pour discuter du mouvement révolutionnaire avant 1914, et donc là, après une première partie consacrée, disons, à ce mouvement révolutionnaire des années 1880 à 1909, donc qui précède, disons, la période qui est traitée plus spécifiquement dans le livre, on arrive à la période qui est plus spécifiquement traitée dans le livre. Bon, c'est un livre très riche, on va pas... peut-être probablement pas avoir le temps de tout raconter, quoi qu'il nous reste encore pas mal de temps. Donc on va quand même pouvoir raconter des choses. Repartir, faire un état des lieux en 1909 pour dresser un peu le décor, pour qu'on puisse plus comprendre la suite, avec donc le changement de direction dans à la CGT. Enfin, la question de l'ervéisme, c'est tout le chapitre finalement qui s'appelle Paris ouvrier. C'est le premier chapitre de ton ouvrage qui est très très intéressant. Ce premier chapitre qui plante un décor assez complet.
Bah oui, effectivement, le premier chapitre, c'est vraiment un tour d'horizon. Enfin, c'est même une balade, en fait, dans le Paris ouvrier de l'époque, qui permet de rencontrer, de croiser un peu les différentes fractions et les différentes organisations du mouvement ouvrier à ce moment-là. C'est toute une contre-société, hein, le mouvement ouvrier à ce moment-là, c'est quelque chose d'impressionnant. Et donc, effectivement, le récit démarre avec le 25 février 1909, hein, je crois, le soir où on procède à l'élection du nouveau secrétaire de la CGT. Et coup de théâtre, ce secrétaire est un réformiste. Chose qui est inimaginable, en fait. Il y a vraiment un bug dans la CGT. Un réformiste est élu avec une voix d'avance. Hein. L'élection se fait lors de la réunion du comité des fédérations. Hein. Ce sont les fédérations professionnelles qui élisent, il y en a plus d'une cinquantaine, hein, qui élisent le secrétaire de la CGT. Et donc, les fédérations révolutionnaires, c'est-à-dire le bâtiment, les métaux, les inscrits maritimes, c'est-à-dire les marins, les horticulteurs, je ne sais plus ce qu'il y avait encore, l'alimentation, tous ces gens-là votent normalement pour le candidat révolutionnaire, qui est Nicolet, un menuisier issu du bâtiment. Et puis, le candidat réformiste, Louis Niel, lui, est soutenu par donc les fédérations réformistes, le Livre, les cheminots, les mineurs, les employés, etc. Et donc, coup de théâtre, Niel est élu. Alors ça, c'est le point de départ du bouquin, parce que ça bouleverse un peu la donne. Il ne restera en fait que 3 mois à la direction de la CGT, 4 mois à tout casser, parce que c'est pas possible, quoi. Un secrétaire réformiste au siège confédéral de la Grange Aubel, entouré de révolutionnaires qu'il déteste, il va craquer, en fait, grosso modo, il tiendra pas le coup, et il sera remplacé par Léon Jouot par la suite. Donc, il y a la CGT, c'est quand même le poids lourd, c'est l'objet de toutes les attentions, hein, dans le mouvement ouvrier de l'époque. Vous avez une force montante, quand même, qu'il faut noter à l'époque, c'est le PS, hein, le Parti Socialiste, qui a été fondé en 1905. Mais entre 1905 et 1908, c'était un peu le marasme, parce que les différentes tendances qui s'étaient unifiées au sein du PS cohabitaient très mal, ils se tiraient dans les pattes, ça allait pas très fort. Et puis 1908, au congrès de 1908 à Toulouse, il y a eu un peu un tournant, et il a semblé qu'on commençait à s'approcher quand même d'une forme de synthèse. Et que l'unité socialiste n'était plus seulement formelle, mais qu'elle commençait à devenir réellement vivante, quoi. Et donc le PS, à partir de 1909, va commencer à monter en puissance. Et puis vous avez un acteur très important, début 1909 déjà, qui est la guerre sociale. La guerre sociale, c'est le plus grand hebdomadaire d'extrême gauche de l'époque. C'est un hebdomadaire qui, en 1909, je voudrais pas dire de bêtises, mais doit tirer déjà dans les 30 000 exemplaires. Et c'est un hebdomadaire dit de concentration révolutionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en son sein, on trouve des socialistes, des anarchistes, des syndicalistes, qui sont associés sur la base commune de l'antimilitarisme, antipatriotisme et antiparlementarisme. Hein, ce sont des socialistes antiparlementaires hein, qui collaborent à la guerre sociale. La guerre sociale est dirigée par un personnage très intéressant, haut en couleur, Gustave Hervé. Et Gustave Hervé, c'est vraiment un personnage à part parce que c'est quand même quelqu'un qui siège depuis sa fondation à la direction du PS, mais vraiment à l'extrême gauche de la direction du PS. Et c'est une sorte de trublion, en fait, hein, qui n'obéit à rien ni personne et qui n'en fait qu'à sa tête, et qui est totalement sur une ligne socialiste révolutionnaire. Et en fait, il passe son temps à houspiller le PS et sa dérive parlementariste. Il passe son temps à se moquer des parlementaires PS et à vanter l'action de la CGT et l'action directe des travailleurs. Et il donne même, on a tendance à le dire, hein, il donne même un peu dans la surenchère par rapport à la CGT. Et donc c'est quelqu'un qui agace énormément, il est détesté, on peut même le dire, hein, au sein du PS, par les tendances les plus droitières du PS, et puis il est adulé au sein des milieux révolutionnaires, au sein de la CGT, il est adulé par les anarchistes, il est adulé, et au sein de la CGT, bon, il agace un peu les dirigeants confédéraux, parce que disons qu'ils marchent un peu sur leur plate-bande, hein, voilà, mais c'est quelqu'un qui jouit d'une immense popularité dans les milieux ouvriers révolutionnaires. Donc Gustave Hervé dirige ce journal, il le co-dirige un peu avec un anarchiste qui s'appelle Miguel Almereda, qui est quelqu'un d'assez brillant hein, aussi. Et donc voilà, il faut bien avoir ça à l'esprit, c'est qu'en 1909, le journal qui donne le la dans le mouvement révolutionnaire et donc dans le mouvement libertaire, c'est pas un journal libertaire, c'est pas les temps nouveaux, c'est pas le libertaire, c'est pas l'anarchie. Le journal qui donne le la du mouvement libertaire, c'est la guerre sociale. C'est le journal le plus lu, avec le plus de passion et de fièvre, et il faut reconnaître que c'est un journal extrêmement bien fait. C'est-à-dire que, bon, moi j'ai dépouillé beaucoup de journaux pour faire mon livre, je peux vous dire que La Guerre Sociale, c'est un journal, quand on le lit 100 ans plus tard, on s'ennuie pas. C'est écrit d'une manière vivante, il y a un récit hein, derrière, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une forme journalistique très très aboutie. La titraille est extrêmement bien faite, c'est très illustré, avec d'excellents dessinateurs. Hein, faut citer Gassier, qui est un des fondateurs, je pense, de la caricature politique en France. Faut citer Paul Poncet. Puis il y en a d'autres. Hein, y a Delannoy qui collabore aussi. Mais principalement, Poncet et Gassier sont vraiment des dessinateurs exceptionnels. Le livre, d'ailleurs, j'ai reproduit dans le livre une quarantaine de leurs dessins. Donc voilà, La Guerre Sociale, c'est un journal qui est passionnant. Et c'est un journal qui est suivi par toute une foule de gens, et notamment dans les milieux anarchistes révolutionnaires. Le mouvement anarchiste lui-même, eh ben, en 1909, il est un peu dans le marasme, en fait. Il existe, mais on va dire qu'il a perdu ses porte-drapeaux. Parce que, ses porte-drapeaux les plus brillants sont un peu passés à autre chose. Alors, Émile Pouget, il s'occupe de la CGT, hein, il est numéro 2 de la CGT. Puis après, une fois qu'il n'est plus numéro 2 de la CGT, il va continuer à faire des choses, mais pas dans le mouvement anarchiste, spécifiquement. Malato, de la même façon que Sébastien Faure, après l'affaire Dreyfus, à cause de leur défense républicaine, ils sont quelque peu retrouvés mis sur la touche, donc ils sont plus trop présents dans le mouvement. Et vous avez des militants de moindre envergure qui animent le mouvement anarchiste, et le mouvement anarchiste a vraiment du mal à se faire entendre. Il est assez éparpillé, il est assez dispersé.
On pourrait parler des temps nouveaux et du libertaire.
Oui, bien sûr. Alors il y a quelques journaux qui continuent à l'animer. Alors il y a le journal qui est considéré comme le journal portant la doctrine officielle de l'anarchisme, qui est les temps nouveaux. Les temps nouveaux est animé par Jean Grave, qui est un vétéran du mouvement, qui est un personnage assez discret, hein, par ailleurs, puis assez parfois capable d'être antipathique, parce que il est toujours un petit peu, il traîne un peu les pieds dès qu'il s'agit de faire quelque chose. Bon, il fait son journal, quoi, disons. Et c'est un journal avec lequel les milieux anarchistes entretiennent un rapport assez ambivalent, d'amour-haine, quoi, en quelque sorte, parce que à la fois c'est le journal incontournable, parce que les meilleures plumes y écrivent, parce qu'il a un super réseau de correspondants international, parce que Kropotkin y écrit, donc c'est le journal incontournable. Et en même temps, c'est un journal qu'on boude volontiers, auquel on donne des surnoms rigolos. On l'appelle, certains anarchistes l'appellent le moniteur officiel de l'anarchie. On l'appelle l'étang nouveau. Alors l'étang comme une mare, quoi. L'étang nouveau, bon voilà. Parce que c'est aussi ce journal un peu académique, un peu poussif, un peu ronflant, et qui est très 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 loin de la vivacité, de la flamboyance de la guerre sociale. Les temps nouveaux, il tire à 5000 exemplaires. C'est pour donner la mesure aussi par rapport à la guerre sociale qui tire à 30 000. Vous avez un autre journal qui, vit sa vie, sans beaucoup d'ambition, jusqu'en 1910. C'est Le Libertaire. Le Libertaire, c'est le journal fondé par Sébastien Faure, mais Faure a retiré ses billes vers 1900-1901. Et puis il a passé la main à son ancien bras droit, Armand Matta, et c'est Matta qui tient Le Libertaire. Le Libertaire, c'est un journal, on va dire, éclectique, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de ligne politique. Matta, c'est pas quelqu'un qui est très regardant sur la question de la doctrine, contrairement à Jean Grave. C'est pas non plus quelqu'un qui est tellement versé dans l'action révolutionnaire flamboyante. Matta, c'est un peu un gestionnaire, on va dire, voilà. Et donc on trouve de tout dans Le Libertaire. On trouve aussi bien des articles syndicalistes de Fernand Yvetot que des articles sur le naturisme, le végétarisme, les communautés en vie libre, etc., etc. C'est vraiment un journal éclectique où on trouve un peu de tout. Et c'est d'ailleurs dans ce journal qu'est apparu, qu'a eu lieu un renouveau du courant individualiste vers 1904-1905, et les individualistes se sont à un moment donné incrustés dans Le Libertaire, et puis ils ont fini par s'en aller pour fonder leur propre organe qui va s'appeler l'Anarchie. Voilà. Alors en fait, pour terminer sur Le Libertaire quand même, Le Libertaire va donc vivoter un peu comme ça jusqu'en 1910, et puis en 1910 il va y avoir un tournant important qui tient sans doute à une mutation du mouvement anarchiste parisien. Mais Armand Matta va passer la main, et il va passer la main pas à n'importe qui, il va passer la main à Pierre Martin. Et Pierre Martin, c'est vraiment Pierre Martin, c'est une figure héroïque, hein, du mouvement libertaire. Il n'est pas parisien, il s'installe à Paris à ce moment-là. Pierre Martin, c'est un des tout premiers militants importants de l'anarchisme en France dès les années 1881. C'est un ancien ouvrier tisseur. Il est un peu difforme, un peu bossu. Il a fait pas mal de prison. Il a fait du syndicalisme à la CGT à Lyon un petit peu. Il est très connu dans le mouvement. Il est unanimement respecté pour son intégrité, pour sa droiture, pour son courage. C'est vraiment un personnage assez exceptionnel, hein, Pierre Martin. Et quand Armand Matta lui passe la main sur Le Libertaire, eh bien Pierre Martin va transformer Le Libertaire. Il va réunir une équipe exclusivement composée de militants révolutionnaires, et ils vont transformer Le Libertaire en une feuille, comme ils le disent, hein, une feuille exclusivement anarchiste révolutionnaire. Voilà. Donc ça va devenir un journal de combat qui va en fait se fixer rapidement pour objectif de concurrencer la guerre sociale sur son propre terrain, c'est-à-dire l'agitation révolutionnaire, et s'efforcer de rassembler les militants syndicalistes révolutionnaires, tous les jeunes militants ouvriers casse-cou vont se retrouver assez rapidement dans Le Libertaire, quoi. Voilà. Il y a un autre titre qui donc existe à l'époque, qui est un titre très important, qui est un titre qui anime une mouvance relativement importante à l'époque, c'est l'Anarchie. Alors l'Anarchie a été fondée en 1905 par Albert Libertad, qui donc avait fait ses premières armes aux libertaires, dès l'époque de l'affaire Dreyfus d'ailleurs, je crois. Et donc l'Anarchie, c'est un journal qui est le journal qui structure vraiment la mouvance individualiste. La mouvance individualiste, elle vit donc un petit peu peu en marge du mouvement anarchiste et du mouvement révolutionnaire en général. Elle s'organise autour d'une petite institution quoi qui s'appelle les causeries populaires. Les causeries populaires, c'est un peu comme les universités populaires, mais en beaucoup plus souple et décontracté. Il n'y a pas des professeurs d'université qui viennent donner des cours. C'est un peu un forum, une agora, quoi, avec des conférenciers qui viennent, mais des conférenciers un peu de moindre niveau, quoi, qui viennent conférencer sur ceci, cela. Et en 1909-1910, c'est une mouvance qui est déjà en crise, en fait. C'est une mouvance qui a été pas mal déchirée par des guerres intestines assez violentes entre des clans rivaux. Alors ça a commencé dès 1905 en fait. Hein. Il y avait les partisans de Paraf Javal et il y avait les partisans d'Albert Libertad. Les partisans de Paraf Javal étant surnommés les scientifiques, les partisans d'Albert Libertad étant surnommés les sentimentaux. On n'était pas tout à fait d'accord sur la façon dont il fallait être anarchiste, et donc on se battait beaucoup sur qui était un vrai anarchiste et qui ne l'était pas. Ça a donné lieu
c'est
à
des questions contemporaines aussi, parce que avec le post-anarchisme...
Alors oui, c'est des questions alors qui, de point de vue contemporain, sont tout à fait étrangères, mais qui, pour l'époque, sont assez croquignolesques et qui ont donné lieu à des vrais garde-clochers avec mort d'homme, hein, donc c'est pas non plus que de la rigolade. Voilà, donc en 1909, bon, Albert Libertad est mort en 1908, vraisemblablement des suites à un passage à tabac par ses propres compagnons, hein, quand même. Paraf Javal a été mis au banc du mouvement assez vite, parce que c'était quand même une sorte de gourou assez ésotérique, quoi. Et puis, en fait, en 1910, il va y avoir une crise vraiment assez importante du mouvement individualiste, parce que donc c'est à ce moment-là qu'il y a notamment une rixe sanglante entre les scientifiques et les sentimentaux. Et les scientifiques vont collaborer avec la police pour faire tomber les sentimentaux. Bon, voilà, il va y avoir un procès, il y a un mort. Le mouvement individualiste souffre beaucoup de cette ambiance empoisonnée, quand même. Et c'est aussi le moment où il y a une grande campagne qui va être menée, que je raconte dans le livre. Une grande campagne, une campagne abstentionniste, hein, au moment des élections législatives de 1910. C'est une campagne très importante parce que c'est la première fois que le mouvement anarchiste réussit à mener une vraie campagne coordonnée, politique, au niveau national. Et donc, les individualistes vont être tenus à l'écart de cette campagne, mais il y a quand même des groupes entiers, en fait, d'individualistes qui vont passer à l'anarchisme révolutionnaire à ce moment-là, avec armes et bagages, parce que trop découragés, en fait, par l'ambiance délétère, quoi, qui règne dans le milieu individualiste. Donc voilà, mais l'anarchie va continuer à exister. Elle va être l'enjeu d'ailleurs de guerres de clans assez importantes pour son contrôle, parce que qui contrôle l'anarchie contrôle en fait un peu le mouvement individualiste. Et jusqu'en 1913-14, l'anarchie va continuer à exister.
Peut-être du coup pour revenir du coup à la question, enfin du coup au deuxième et au troisième chapitre, la guerre sociale, ça reste du coup central. Et effectivement, avant le tournant de 1911 de Gustave Hervé, il y a des velléités de la part de Hervé de créer un parti révolutionnaire. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de cette question-là?
Oui, alors l'idée, en fait, dès 1909, elle fait son apparition, l'idée que, bon, il faudrait fédérer les anarchistes dans une organisation. Donc, il y a une première organisation qui va voir le jour, qui va s'appeler la Fédération Révolutionnaire, tout simplement, qui voit le jour en avril 1909, et qui va vivre un peu... Tout d'abord, elle va être parrainée par la CGT, enfin, par plusieurs dirigeants en fait importants de la CGT, dont Léon Jouot d'ailleurs, vont parrainer la naissance de cette organisation. En fait, elle va être assez rapidement lâchée par les cégétistes et elle va tomber un peu dans l'escarcelle de la guerre sociale, mais elle va aussi être lâchée par la guerre sociale et finalement cette organisation va pas vivre très longtemps. Elle va péricliter définitivement en mai 1910. Voilà. Mais elle existait déjà plus depuis plusieurs mois à ce moment-là. Et en fait, le vrai point de départ de l'organisation des révolutionnaires à ce moment-là, en France, c'est vraiment la campagne antiparlementaire de 1910. Il y a donc cette campagne antiparlementaire qui va unir toutes les fractions révolutionnaires. Alors, autour d'un comité de parrainage, hein, le schéma est souvent le même hein, à cette époque-là pour monter quelque chose. Donc, un comité de parrainage avec des personnalités. Donc, ce comité de parrainage est pluriel. Vous y trouvez des personnalités de différentes fractions révolutionnaires. Donc, des gens des temps nouveaux, des gens du libertaire, des gens de la CGT, des gens de la guerre sociale, des gens du CDS, dont on n'a pas parlé, le comité de défense sociale, qui est un truc de soutien aux détenus et qui joue un rôle important. Et donc, lancer une campagne à laquelle qui va déclencher un vrai mouvement quoi, d'action dans tout le pays, puisque au plus fort de la campagne antiparlementaire, vous allez avoir quand même 250 comités d'action sur tout le territoire pour mener la campagne antiparlementaire, coller des affiches, distribuer des brochures, etc. etc. Et à ce moment-là, tout le monde va se rendre compte que potentiellement, il y a une véritable force en fait politique existante, latente en France, si on veut en faire quelque chose. Et là va s'engager une course de vitesse entre ceux qui veulent fonder un parti révolutionnaire. Donc c'est surtout Miguel Almereda, au sein de la guerre sociale, qui mène campagne là-dessus, beaucoup plus que Gustave Hervé. C'est Miguel Almereda qui lance l'idée et qui l'amène. Donc un parti révolutionnaire et ceux qui veulent fonder une fédération communiste anarchiste. Alors la différence en fait c'est quoi entre les deux? C'est un peu obscur au départ. C'est tellement obscur d'ailleurs que le parti révolutionnaire au départ va rassembler beaucoup d'anarchistes. La plupart des sections du parti révolutionnaire qui vont se créer en province dans un premier temps et vont être créées par des groupes anarchistes notamment du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme qui sont des bastions anarchistes en fait. Benoît Brouchou et ses amis dans le Pas-de-Calais, ils vont fonder une des premières sections du Parti Révolutionnaire. Les anarchistes de la Somme, avec leur journal Germinal, ils vont fonder une des premières sections du Parti Révolutionnaire. Et dans l'idée, c'est que le Parti Révolutionnaire va rassembler les anarchistes, va rassembler des syndicalistes et va rassembler, y compris, des socialistes antiparlementaires. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Sauf qu'en fait, le projet est quand même... marche pas très très bien, enfin ça marche très très fort au début, il y a plusieurs sections qui se créent comme ça, mais surtout par des anarchistes en fait. A contrario, au sein du PS, l'extrême gauche du PS renacle, elle boude un peu cette initiative, et plusieurs militants importants de la tendance, enfin de l'extrême gauche du PS, disent qu'ils veulent pas s'embarquer dans cette aventure et qu'ils ont pas envie de quitter le PS, alors qu'il leur semble que leur influence au sein du PS va croissant. Il leur semble, en fait c'est pas vrai, mais il leur semble qu'elle va croissant. Donc ils refusent d'y aller. Gustave Hervé, il hésite en fait, il penche d'abord pour le Parti Révolutionnaire, il dit en avant pour le Parti Révolutionnaire dans un de ses éditos, et puis en fait deux semaines plus tard il change d'avis, et puis il dit ah non finalement je vais rester au PS. Donc l'histoire du Parti Révolutionnaire ça va qu'à un quart. Et en parallèle, vous avez des gens, notamment les anarchistes parisiens, qui veulent pas faire un parti avec les socialistes, avec l'extrême gauche du PS. Il y a deux raisons, enfin, il y a des raisons officielles. Alors les raisons officielles, elles sont tout à fait pures, c'est des raisons doctrinales. C'est nous sommes communistes, ils sont collectivistes. Voilà. Nous sommes anarchistes, ils sont étatistes. Voilà. Tout ça, sur le papier, ça marche, hein, effectivement. Mais je pense qu'il y a surtout une question fondamentale qui les divise, c'est la question de l'indépendance et du rapport au PS. Et pour le parti révolutionnaire, ses concepteurs, hein, Almereda, Hervé, étaient très très flous sur les options pratiques, les options politiques pratiques du parti révolutionnaire, notamment la question électorale. Et sur la question électorale, on a pu lire dans certains articles que oui, ce qu'il faudrait, c'est que le parti révolutionnaire, déjà il puisse y avoir la double carte, qu'on puisse être à la fois au parti révolutionnaire et au PS. Et puis que d'autre part, le parti révolutionnaire fasse ni d'électoralisme, ni d'abstentionnisme. En fait, fallait pas qu'ils gênent le PS, quoi, en gros. Voilà. Fallait que le Parti Révolutionnaire, dans leur idée, dans leur conception, c'était un peu une sorte de flotteur gauche du PS. C'était une sorte un peu de... C'était en tout cas pas un concurrent du PS, en aucun cas. Voilà. Et ça, un certain nombre d'anarchistes parisiens l'ont bien vu. Ils l'ont bien senti. Et ils se sont battus donc contre le Parti Révolutionnaire. Et ils ont défendu la perspective de création d'une fédération communiste anarchiste où il y aurait que des communistes anarchistes. Mais ça n'allait pas... Enfin, il faut savoir que faire ce choix était un choix relativement audacieux Parce que si vous ne faisiez pas le parti révolutionnaire, comme le souhaitait Almereda, vous perdiez l'appui de la guerre sociale et de sa puissance de feu, avec ses 30 000 lecteurs, et même près de 50 000 en fait au moment où se mène le débat, parce que entre temps la guerre sociale avait encore un prix d'importance, et donc c'est un tirage de 50 000 la guerre sociale à ce moment-là. Donc quand vous refusiez de rentrer dans ce jeu-là, vous perdiez l'appui de la guerre sociale et de ses 50 000 lecteurs. Il vous restait quoi? Le Libertaire et son tirage à 5 000. Bon, c'était pas non plus voilà, mais c'est le choix majoritaire qui a été fait par les anarchistes parisiens. Et finalement, ils ont réussi à rallier à eux progressivement tous les groupes anarchistes de province qui s'étaient dans un premier temps affiliés au Parti révolutionnaire parce que la guerre sociale les appelait, quoi. Et donc ils ont surtout vu la guerre sociale.
Et du coup, ça va déboucher sur... on n'est pas obligé de respecter exactement la chronologie, on reviendra en arrière sur plusieurs épisodes importants, l'affaire Ferrer, etc., etc. Mais du coup, ça va déboucher... ça, c'est un chapitre plus loin dans ton... Ça va déboucher sur la Fédération communiste anarchiste, qui va être la première... peut-être la première grande organisation anarchiste-communiste.
Enfin, là, c'est la première vraie organisation conséquente qui s'inscrit dans la durée. Si on accepte les tentatives qui ont pu exister en 1908-1909, mais qui n'ont pas tenu, c'est la première organisation qui va vraiment marcher. Dans un premier temps, donc elle est fondée en novembre 1910, dans la foulée de la grève des cheminots, en fait. Elle s'appelle la Fédération révolutionnaire communiste, dans un premier temps. Pourquoi il n'y a pas le mot anarchiste? Parce que les anarchistes, ils sont tous anarchistes, hein, les gens qui la font. Mais en fait, ils se disent que pour ne pas effrayer éventuellement des syndicalistes révolutionnaires qui pourraient venir, qui se sentent communistes, mais qui ne se sentent pas anarchistes, on va éviter le mot anarchiste. Voilà. Donc on l'appelle la Fédération révolutionnaire communiste dans un premier temps. Et puis dans un second temps, on considère qu'en fait, il y a là une forme de pudeur mal placée, parce que c'est évident pour tout le monde que la FRC, c'est une organisation anarchiste, parce que son journal officieux, c'est le Libertaire, parce qu'elle arbore un drapeau noir, bon, voilà, quoi. Donc, en juillet 1912, on change de nom, et l'organisation se rebaptise Fédération communiste anarchiste. Voilà. Et ensuite, elle changera encore de nom. Hein. En août 1913, elle transformera l'essai. Elle parviendra à réunir un congrès national. Elle sera à l'origine d'un congrès national anarchiste dans lequel il y aura la FCA, bien sûr, au centre. Mais il y aura également toutes les fractions anarchistes qui, jusque-là, ne l'avaient pas rejointe. Notamment les groupes des temps nouveaux, notamment des groupes locaux anarchistes qui existaient aussi. Et tout ça va fusionner dans une seule et unique organisation qui va s'appeler la FCAR, la Fédération communiste anarchiste révolutionnaire, voilà, qui va exister jusqu'en août 1914.
Alors du coup, pour revenir un petit peu en arrière, donc il y a disons dans les années qui vont qui précèdent, hein, 1914, il y a on n'aura pas le temps de tout détailler, il y a l'histoire des retraites ouvrières, donc où finalement c'est le modèle de retraite par capitalisation qui va être repris, qui est du coup le modèle disons le moins favorable aux ouvriers. évidemment, ça va entraîner des débats énormes, puisque finalement le Parti socialiste va se rallier à ces retraites par capitalisation, et alors que au contraire les anarchistes, eux, défendent carrément des retraites qui seraient prélevées uniquement sur l'impôt des riches et où il y aurait même pas de cotisation.
Alors je sais, j'ai pas vu de position officielle du mouvement anarchiste sur la question, parce qu'en 1910 l'organisation n'est pas encore fondée. Bon. Et dans la presse anarchiste de l'époque, on ne prenait pas, quelque chose de précis sur la question des retraites. Hein. Honnêtement, j'ai pas vu ça. Par contre, les militants anarchistes dans le syndicalisme, ils défendaient des options, hein, en tant que syndicalistes. Voilà. Donc, ils défendaient pas n'importe lesquelles. Mais pour revenir quand même sur cette histoire des retraites ouvrières, ça commence en décembre 1909, le gouvernement, parce que ça fait 20 ans qu'il le promet, je crois, hein, sans rien faire, le gouvernement se décide à mettre en place des retraites pour les ouvriers. Alors, c'est une escroquerie, en fait. C'est une totale escroquerie. La CGT va mener une campagne extrêmement virulente contre ces retraites, parce que c'est un système par capitalisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez de l'argent dans une tirelire, voilà, vous confiez la tirelire à votre patron ou à un assureur, il joue ça en bourse, ou alors il investit dans son entreprise avec votre argent. Et puis, quand vous arrivez à l'âge de la retraite, s'il y a encore de, si la tirelire n'a pas fondu au gré d'un krach boursier, ou, eh ben, on vous redonne de l'argent. Bon. Sauf que, dans le projet gouvernemental, de retraite par capitalisation, l'âge de la retraite était à partir de 65 ans. Or, 94% des ouvriers n'atteignaient pas 65 ans. Donc, ça voulait dire qu'on vous invitait à cotiser uniquement. C'était un détournement légal d'argent en direction du patronat et des banquiers, des assureurs. Voilà. Donc c'était évidemment une escroquerie monumentale et la CGT a été vent debout immédiatement contre ce projet. La voix du peuple, son organe officiel, pendant plusieurs semaines, le titre à la une là-dessus, quoi, sur l'escroquerie, le bluff, etc. des retraites ouvrières. Le PS va avoir une attitude assez intéressante sur la question des retraites ouvrières, puisque le PS va soutenir les retraites par capitalisation, et Jean Jaurès en personne, avec des arguments pour le moins étonnants. Jean Jaurès, par exemple, j'écorne Jaurès à plusieurs reprises dans le livre, parce que voilà, ça fait du bien parfois
de casser le mythe, quoi.
De casser un peu les légendes dorées. Sur Jaurès, le génie qui aurait tout vu, tout compris, tout pressenti, alors que bon, à plusieurs reprises, c'était quand même pas trop ça, et notamment sur la question des retraites ouvrières. Donc Jean Jaurès écrivant que dans l'Humanité, que oui, c'est formidable les retraites ouvrières, parce que ça va permettre en quelque sorte à la classe ouvrière d'entrer dans le capital des entreprises, puisque donc les retraites par capitalisation vont être investies dans les entreprises, ça va permettre à la classe ouvrière d'entrer dans le capital des entreprises, et donc Jaurès commence à défendre une forme d'actionnariat salarié, quoi, et donc alors bon, c'est typiquement les arguments qu'on retrouvait à l'époque en 2001 par là où Vivendi vantait ce modèle de l'actionnariat salarié, etc. Bon, c'est vraiment complètement ahurissant et ça n'est pas ahurissant que pour nous 115 ans plus tard. C'était ahurissant y compris pour les militants syndicalistes de l'époque. Et Alphonse Mérême, le secrétaire de la Fédération des métaux, dans La Vie ouvrière, a écrit un article à un moment donné où il s'en prend à Jaurès en disant « Faut que le citoyen Jaurès il nous explique ce qu'il entend par là. Mais de quoi s'agit-il ? On est en train de nous expliquer que la classe ouvrière va prendre le contrôle du capitalisme avec les retraites par capitalisation. Mais ça s'appelle juste de la collaboration de classe. Ça n'a pas d'autre nom. » Bon, alors la CGT va se battre à mort contre les retraites ouvrières, le PS va les défendre en disant « c'est pas si bien, mais on peut les améliorer, naninana. » Ça va culminer en fait à l'été 1911, hein, au début juillet 1911, au moment où les livrets de retraite sont mis en circulation. La CGT appelle à des grandes manifestations pour faire des autodafés de livrets de retraite. Et donc, les manifs sont interdites par l'État,
hein, parce que toutes d'ailleurs.
Oui, toutes sont toutes interdites parce que faut dire qu'à ce moment-là. Pile à ce moment-là, éclate la crise marocaine d'Agadir, et donc la France est sur le pied de guerre, et donc on interdit toutes les manifestations. Et donc il n'y en a que quelques-unes qui se tiennent dans certaines villes, mais il y a des milliers d'ouvriers qui... alors c'est à Troyes, je crois, notamment. Il y a des milliers d'ouvriers qui viennent et qui brûlent leur livret de retraite. Voilà. Finalement, le gouvernement sera contraint de reculer, et il concédera en 1912 à une nouvelle loi qui sera un peu plus intéressante. Ça restera de la capitalisation, mais l'âge de la retraite sera baissé à 60 ans. Et là, la CGT, à ce moment-là, va un petit peu hésiter. Alors, pour quelle raison ? À la CGT, il y avait trois positions sur cette question-là. La position, une position très minoritaire, qui était défendue par les réformistes, c'était d'être d'accord avec les retraites par capitalisation. Mais ça, il n'y a qu'une minorité réformiste qui défendait ça. Ensuite, une position que je pourrais pas qualifier de majoritaire parce qu'il n'y avait pas vraiment eu de vote, mais c'est à transparaître, disons, dans les débats de congrès. C'était la position de Jouot ou de Mérême, par exemple, qui disait bon, on pourrait être d'accord éventuellement avec les retraites, avec le système de retraite, si au moins il était par répartition. Dans ce cadre-là, on peut en discuter. Voilà. Dans ce cadre-là, on pourrait en discuter, on n'y serait pas défavorable. Et puis il y avait une position intransigeante qui était celle de la Fédération du bâtiment, par exemple. Et la Fédération du bâtiment, elle disait c'est simple, nous on est contre la retraite aussi bien par répartition que par capitalisation, parce qu'on est contre tout versement d'argent ouvrier. Nous sommes, en gros, ils étaient pour la retraite par fiscalisation. Ils n'employaient pas la formule, hein, mais en gros c'est ça, parce qu'ils disaient les retraites ouvrières doivent être servies sur le budget de l'État. Parce que, à l'heure actuelle, l'État paie les retraites à un certain nombre de parasites sociaux, des flics, des militaires, des magistrats. Or, les ouvriers qui, eux, sont productifs, n'ont droit à aucune retraite. Et bien ça, c'est injuste. Et nous, nous demandons à ce que les ouvriers touchent des retraites servies sur le budget de l'État. C'est à l'État de se débrouiller pour lever des impôts sur les riches pour ça. Voilà, en gros, c'était la position de la Fédération du bâtiment. Bon, au final, en 1912, au congrès du Havre de la CGT, les positions ont continué de coexister, quoi, disons, hein, y a pas eu, on n'a pas tranché véritablement, mais grosso modo, la CGT commençait déjà à ce moment-là à évoluer vers une acceptation des retraites par répartition, tout simplement parce que, je pense, hein, enfin c'est l'argument en tout cas qu'utilisent les défenseurs de ce système, c'est pas qu'ils le défendent par amour de la répartition, simplement parce qu'ils sentent la base se dérober sous leurs pieds. C'est-à-dire qu'ils voient bien qu'en fait ça commence à marcher dans la classe ouvrière et qu'un certain nombre de militants ouvriers sont prêts à souscrire en fait au système gouvernemental parce que ça commence à devenir intéressant. Même si c'est par capitalisation, il y a des chances d'arriver à l'âge de 60 ans et donc de toucher une retraite. Et donc ça commence à intéresser un certain nombre d'ouvriers. Les dirigeants syndicalistes, dans cette mesure, ne se sentent pas en mesure de poursuivre leur campagne d'opposition frontale. Et ils vont amorcer un virage vers une autre posture qui sera plus...
Oui, mais.
Voilà, on va dire.
Et du coup, après... Donc ça, c'est peut-être les deux grands moments clés de 1910... Alors à part évidemment l'affaire Aernoux-Rousset, bon en gros qui tourne autour de l'histoire des bagnes, etc. Des bagnes pour les déserteurs ou pour les réfractaires, pour les antimilitaristes qui font leur service militaire, etc. Et le troisième grand épisode, je sais pas si on a vraiment besoin d'en parler beaucoup, mais c'est la grève des cheminots qui va être aussi un symbole de cette décélération disons dans la réussite des luttes puisque ça va globalement pas être une grande réussite quoi.
Bah ça va surtout être une immense déception, la grève des cheminots. Dans l'imaginaire révolutionnaire de l'époque, il y a deux figures majeures, le mineur et le cheminot. Parce que ce sont les gens qui sont susceptibles de paralyser l'économie et manque de bol, la Fédération des cheminots et la Fédération des mineurs sont tenus par des réformistes. Donc c'est-à-dire que tout le schéma grève généraliste qui met beaucoup d'espoir quand même sur les mineurs et les cheminots, il est souvent quelque peu battu en brèche par ce gros problème qu'on a, que les principales fédérations en fait elles adhèrent pas à l'idée de grève générale. C'est la Fédération du bâtiment, la Fédération des métaux, celles-là sont des fédérations révolutionnaires, mais elles sont pas en mesure de paralyser la France comme sont en mesure de le faire les mineurs et les cheminots. Donc on attend beaucoup la grève des cheminots. Et en fait, dans la Fédération des cheminots, c'est une fédération dirigée par des réformistes. D'ailleurs, c'est même pas vraiment une fédération, c'est un syndicat national. Donc, c'est-à-dire que c'est assez centralisé, hein, c'est même très centralisé, dirigé par un réformiste qui s'appelle Eugène Guérard, avec une dizaine d'administrateurs qui sont même pas cheminots, hein, qui sont des salariés du syndicat recrutés par Eugène Guérard. Et c'est vraiment un modèle très centraliste, réformiste, qui est aux antipodes du modèle fédéraliste de la CGT. Hein. Mais au sein du syndicat national des cheminots, il y a une minorité révolutionnaire qui monte à partir de 1908-1909, à chaque congrès elle fait des progrès. Et à un moment donné, c'est cette minorité révolutionnaire qui parvient à obtenir au congrès que le syndicat national mène une campagne importante pour la thune. La thune, c'est 5 francs. Et c'est les 5 francs de salaire journalier, je crois. Et donc, il s'agit de mener cette campagne. Et le syndicat national est contraint, par le Congrès, de mener cette campagne. La campagne se mène et elle rencontre un enthousiasme énorme. On s'aperçoit qu'il y avait... Il y avait une attente gigantesque en fait chez les cheminots, parce que les effectifs du syndicat montent en flèche en fait pendant la période de préparation de la. En fait, on fait campagne pour la thune, enfin la campagne pour les 5 francs, mais donc c'est une campagne de préparation d'un mouvement, campagne de préparation d'une grève. Hein, ça fonctionne quand même beaucoup comme ça. Et donc dans cette période de préparation de la campagne, le syndicat des cheminots, il multiplie ses forces, ses effectifs, c'est spectaculaire. C'est à tel point que la marmite, elle est sur le point de bouillir à tout moment. Le couvercle commence à trépider, quoi. À un moment donné, il y a une grève qui part, d'ailleurs. Je crois que ça ternit dans l'Aisne. Une grève qui part. Et en fait, comme on considère qu'il est trop tôt pour la faire partir, on n'est pas encore prêt. Donc, les leaders révolutionnaires du syndicat des cheminots vont à Ternier avec Yvetot, le numéro 2 de la CGT, qui peut pas être suspect de réformisme. Hein. Avec Yvetot en personne, ils vont à Ternier convaincre les cheminots, non, stoppez la grève. C'est trop tôt, là. Il est trop tôt, on n'est pas prêt. On est en train d'eux, mais il faut être un peu patient pour démarrer. On s'en est là, quoi. Et malgré tout, il y a une deuxième étincelle quelques semaines plus tard, ça repart en grève quelque part, et là, bon, c'est pas la peine d'essayer de juguler le mouvement, ça se répand comme une traînée de poudre. Et donc, il y a une grève qui part, mais malheureusement, de façon assez inégale sur le territoire. Et c'est là qu'on s'aperçoit aussi que selon les réseaux, puisqu'à l'époque la SNCF n'existe pas, la France est découpée en 5 monopoles. Il y a le réseau du Nord, le réseau de l'Est, l'Ouest État, le réseau du Midi, et le Paris-Lyon Méditerranée, le PLM. Puis il y a aussi le PO, Paris-Orléans. Et donc, selon les régions, selon les réseaux, eh ben, des fois c'est les révolutionnaires qui tiennent le haut du pavé, des fois c'est les réformistes, bon. Et en fait, par exemple, le réseau du Nord, qui est en lutte archi-virulente avec des actes de sabotage, avec vraiment des grévistes archi-remontés, c'est le réseau du Nord vraiment qui entraîne la grève nationale, mais le réseau de l'Est, qui est vraiment tenu par les réformistes, ça freine les cas de fer, ils veulent rien faire, bon. Et ça pose des problèmes, y compris d'ailleurs, du coup, de temporalité de la grève, puisque le réseau du Midi ne part pas, mais il n'y a que Toulouse qui part, ou alors il part tardivement, le PLM part, mais trop tardivement, sur le Paris-Orléans, il ne se passe rien, parce que les syndicats sont trop peu implantés, donc il y a des distorsions, et finalement, au bout de 10 jours, la grève... Elle capote. Elle capote parce que, en fait, le gouvernement a aussi réagi avec une détermination implacable. Le président du conseil, Aristide Briand, avant même que la grève éclate, sachant que les cheminots préparaient la grève, le conseil des ministres avait voté la mobilisation militaire des cheminots comme si la France était en état de guerre. Et le décret de mobilisation des cheminots était gardé dans un tiroir, il était rédigé, hein, mais il était gardé dans un tiroir par le président du conseil, et quand la grève a démarré, il a été brandi, tous les cheminots ont reçu un ordre de convocation militaire à domicile. Et sous peine d'être révoqués immédiatement des chemins de fer, il leur fallait aller travailler. Un certain nombre, des centaines ont refusé, ils ont été révoqués, il y a eu des centaines de révocations, mais plein d'autres ont craqué et ils sont allés travailler avec un brassard jaune. Ils sont allés bosser avec un brassard jaune et la grève a été brisée aussi à cause de ça, hein, à cause du sabotage réformiste, mais aussi à cause de la répression impitoyable de l'État contre les cheminots. Et puis à côté de ça, les révolutionnaires ont fait tout ce qu'ils ont pu. La guerre sociale, elle a sorti une édition quotidienne pour sonner le tocsin, dire c'est maintenant ou jamais, on y va. La Fédération du bâtiment a commencé à lancer une grève de solidarité. Les anarchistes ont commencé à faire péter des bombes à ce moment-là, dans les quartiers bourgeois, aux fenêtres de certains grands bourgeois. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 2, je crois. Mais il y a eu vraiment une effervescence autour de la grève des cheminots. Et puis, le fait qu'elle échoue au bout de 10 jours, ça a vraiment donné un coup au moral assez violent. C'est de l'échec de la grève des cheminots que l'on date, enfin que l'on peut dater de son propre aveu, la crise de découragement de Gustave Hervé et le début de son recentrage à droite. Ouais, tout à fait. Gustave Hervé raconte, il était en cellule à la prison de la Santé, et quand il a entendu le sifflet des trains Gare Montparnasse annonçant que le trafic reprenait, là, il dit avoir été envahi par un grand découragement et le sentiment qu'on n'y arriverait pas, quoi. Et que donc, il a commencé à ce moment-là à changer de braquet, quoi.
Et du coup, il nous reste 15 minutes pour... Mais du coup, c'est bien qu'on arrive sur Gustave Hervé. Donc, Gustave Hervé va amorcer une lente... droitisation, disons, il va devenir progressivement de plus en plus républicain affiché, proche du Parti Socialiste, puis il va même se rallier aux radicaux.
Il était dirigeant du PS, déjà.
Ah oui, il était déjà dirigeant du PS.
Mais il adhère de plus en plus à sa ligne parlementaire.
Voilà. voilà, il va adhérer de plus en plus à sa ligne parlementaire, puis au bloc radico-socialiste, puis il va même devenir un chantre de l'Union sacrée pendant la Première Guerre mondiale. Son bras droit, Miguel Almereda, lui aussi. Puisqu'il nous reste 15 minutes, on aurait pu évoquer des choses comme l'affaire Ferrer en 1909, Ferrer qui est tué suite à la révolte de Barcelone en 1909 contre la guerre au Maroc. On aurait pu parler aussi de la révolution mexicaine en flamme, la FRC, tu y consacres quelques pages. On pourrait parler aussi du retour de l'antisémitisme avec Jean Vion, c'est ça ? Mmh. Voilà. Où effectivement il va y avoir une petite frange qui va dire le vrai ennemi c'est les juifs, c'est Rothschild, c'est reprenant un peu le vieux fond antisémite. Ça c'est peut-être un truc où il faudrait s'y arrêter au moins 2-3 minutes.
Ça mérite de s'y arrêter parce que c'est vrai que on méconnaît un peu cette période-là de retour, un peu de remontée de l'antisémitisme qu'il y a vers 1911, qui est suffisamment inquiétante en fait pour que Émile Pouget y consacre plusieurs articles. Émile Pouget tient une chronique dans la guerre sociale à partir de 1910 et il consacre au moins 3 ou 4 articles à combattre pied à pied l'antisémitisme dans les milieux ouvriers. Alors pourquoi il y a cette remontée de l'antisémitisme ? Déjà, je vous ai parlé tout à l'heure du désenchantement après l'affaire Dreyfus. Eh bien, en 1906, il y a commencé à avoir une théorie qui s'est répandue un peu dans les milieux révolutionnaires. C'est une théorie qui vient d'un bouquin de Robert Louzon qui s'appelle, et j'ai oublié le nom malheureusement... La révolution dreyfusienne, peut-être, je crois que c'est ce livre-là. Et en fait, bon, cette théorie se répand un peu dans les milieux révolutionnaires. La théorie qu'en fait, le capitalisme français est en fait dominé par 2 fractions concurrentes. Un peu le capitalisme ancien, le capitalisme moderne, quoi. La fraction du capitalisme ancien, c'est la fraction catholique, militaire, cléricale, capitalisme terrien, ancien régime, etc. Et puis la fraction moderniste du capitalisme, banquiers, affairistes, assurances, etc., c'est la fraction juive alliée avec les francs-maçons. En gros.
Et les protestants, enfin voilà, c'est.
Alors les protestants, on parle pas trop. C'est l'Action française qui parle des protestants, mais à l'extrême gauche, il y a pas trop. On parle pas trop de ça. On parle pas trop des protestants. Non, on parle plutôt de on voit alors. Et d'ailleurs, c'est dit dans le bouquin de Robert Louzon que en fait, c'est une grille de lecture importante. C'est la grille de lecture majeure pour comprendre le capitalisme contemporain. La concurrence entre la fraction juive et la fraction catholique, en gros, voilà.
Ça rappelle un peu des épisodes contemporains, même si c'est pour visiter.
De toute façon, en matière d'antisémitisme, malheureusement, depuis les années 1840, le discours il se recycle de façon différente, mais il y a toujours le même fond. Hein.
Au point qu'on le réédite encore tel quel dans certaines maisons d'édition.
Donc voilà. Mais en tout cas, il y a un peu cette idée-là qui circule, qu'il y a ces 2 fractions en concurrence. Et donc, en 1911, aussi parce qu'on le mouvement ouvrier commence un peu à peiner, peut-être en 1911, il y a des remugles inquiétants, il y a une montée de l'Action française, à ce moment-là aussi, il y a tout un tas de choses qui sont un peu inquiétantes. Et là, d'un coup, il y a un syndicaliste très connu, anarchiste, Émile Janvion, qui est une figure, c'est pas un dirigeant de la CGT, mais c'est une figure, disons, un peu marginal, mais quand même qui est très très connu dans la CGT et au-delà, qui se met en tête de faire un meeting où il va dénoncer la mainmise des réseaux francs-maçons sur la CGT. En fait, sous prétexte de dénoncer les réseaux francs-maçons, on va dénoncer la mainmise des juifs. Et il tient ce meeting, non seulement lui, mais un autre dirigeant de la CGT qui est très connu, Émile Pateau, qui était le dirigeant du syndicat des électriciens. Alors là, gros scandale, grosse levée de bouclier au PS, à la CGT, chez les anarchistes, d'autant plus que dans la salle, les gens qui viennent applaudir Jean Vion, alors il y a peut-être des ouvriers CGT qui sont venus sur le nom de ces 2 orateurs, mais on s'aperçoit qu'aussi le service d'ordre il est assuré par des camelots du roi et le service d'ordre de l'Action française, quoi. Donc il y a une tentative avérée, claire, de créer une passerelle entre l'extrême droite et certains syndicalistes un peu dévoyés, quoi. Bon, il y a une levée de bouclier immédiate hein, au sein de la CGT, chez les anarchistes et au PS, parce que je pense que l'affaire Dreyfus, quand même, elle a sévèrement douché tous ces gens-là, et qui savent bien que, en fait, on joue plus avec l'antisémitisme. Hein. Avant l'affaire Dreyfus, à la limite, on pouvait dire, bon, l'antisémitisme, c'est une opinion, c'est pas très grave, voilà. Mais après l'affaire Dreyfus, il est plus possible de penser comme ça. On sait qu'en fait, l'antisémitisme, c'est un levier extrêmement important pour l'extrême droite, et que si on laisse cette saloperie proliférer, ça va nous causer des ennuis, quoi. Donc il y a une grosse levée de bouclier. Émile Janvion, il est vraiment mis au banc du mouvement syndical et du mouvement anarchiste à ce moment-là, et on lit des choses très intéressantes, parce que y compris chez des gens qui étaient qui avaient vaguement un fond antisémite, il y a une prise de conscience. Alors il y a un article qui est très intéressant, notamment dans La Guerre sociale, de Victor Méric, qui sera par la suite qui est au PS, hein, et qui sera par la suite un des dirigeants du PC au début des années 20. Et Victor Méric écrit un article qui s'appelle La Tourbe, qui est un article symptomatique de ce moment-là. Méric écrit, voilà, moi on sait très bien que j'ai jamais trop aimé les Youpins. Il commence comme ça. Hein. Il dit, mais quand on voit la gueule des vrais antisémites, il y a là de quoi vous dégoûter à jamais de l'erreur antisémitique. C'est-à-dire que des gens qui avaient des préjugés antisémites et qui s'en cachaient pas, parce qu'ils adhéraient un peu à cette idée que pendant l'affaire Dreyfus, en fait, on s'est fait avoir. On a soutenu une fraction du capital contre une autre. Hein. Donc on s'est fait avoir, donc ça participe du désenchantement général. Eh bien, quand ils se retrouvent face à face avec ce qu'ils appellent les vrais antisémites, c'est-à-dire ceux qui en font vraiment une doctrine politique, donc l'Action française, etc., eh bien là, pas question, quoi. Là, il n'y a que deux côtés de la barricade, on n'est pas du même côté, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une sorte de clarification aussi qui s'opère, et les dernières traces de remugle antisémite qu'il pouvait y avoir dans le mouvement révolutionnaire disparaissent. En fait, on les voit pas ressurgir par la suite, quoi. Alors,
ils vont ressurgir, mais
ah oui, non, bah ils ressurgent. Oui. Alors, pardon, excusez-moi, oui, qui ressurgissent pas tout de suite.
Oui, tout de suite,
ouais. Malheureusement, c'est jamais fini cette histoire, mais.
Et du coup, bah, vu qu'on est dans la conclusion, peut-être du coup consacrer. Alors, bon, on recommandera l'épopée tragique des bandits en auto dans ton livre qui parle de la bande à Bono. On pourra parler aussi de. Voilà, il y a deux chapitres dessus même. Et on recommande aussi le chapitre La FCA et les femmes, qui est très intéressant. Sur le passage d'un mouvement ouvrier très masculin, très masculiniste, très paternaliste, les femmes au foyer pour les préserver des affres du travail salarié, jusqu'à des positions dans les années 1900 où le mouvement ouvrier s'ouvre un petit peu à des femmes.
Disons que les barrières tombent.
Les barrières s'effritent.
Les barrières s'effritent.
Voilà. C'est ça, c'est comme ça que tu l'appelles. Les barrières s'effritent et où on est sur une position un peu moins. Bon, c'est pas encore. On n'est pas encore dans les années 60-70, hein. Mais il commence à y avoir une prise de conscience. Il y a ça et là des indications que effectivement les mentalités évoluent, etc., etc. Mais du coup, on va peut-être aller du coup sur voilà marche vers la guerre de Agadir, Tripoli, l'été-automne 1911, jusque aux 10 journées dramatiques, qui sont des chapitres passionnants où tu mêles à la fois une histoire géopolitique de la marche vers la guerre. Et en même temps, les contestations dans le mouvement révolutionnaire qui ont été très fortes, contrairement à ce que on a pu penser, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et on y peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, où par contre le Parti socialiste a été pour le moins de très très mauvais conseils, et notamment Jaurès vers la fin qui a cru que le gouvernement français était pacifiste, qui ne voulait pas la guerre et tout ça. Et donc là effectivement dans ton livre l'image de Jaurès qui aurait été le héros du mouvement contre la guerre prend vraiment un sacré coup à la lecture. Enfin en tout cas s'il était contre la guerre, en tout cas il s'y est pas du tout bien pris, quoi.
Non, il s'est pas bien pris. Il a été berné, effectivement, parce que le Premier ministre, en juillet 14, n'était pas n'importe qui. Hein, c'était René Viviani, c'est-à-dire son ancien bras droit, avec qui il avait fondé l'Humanité. Et Viviani a excellé, effectivement. Enfin, il s'est pas non plus donné beaucoup de peine. Je pense que Jaurès avait envie de croire que le gouvernement français était vraiment pacifiste, sincèrement pacifiste. Et en fait, le gouvernement français était ni pacifiste ni belliciste. À ce moment-là, le gouvernement français, il n'était même pas tenu au courant de l'évolution des événements par son allié russe. Et donc, le gouvernement français est resté très passif, en fait, pendant la crise de juillet 14. Son seul souci ayant été de maintenir l'ordre intérieur. C'est tout. C'est tout ce qu'il a fait.
Sachant qu'il était pas non plus, il était plutôt favorable quand même à une guerre.
Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que là où le gouvernement français a été habile, c'est que alors qu'il préparait activement la guerre depuis des années et avec une accélération réelle depuis février 1912, c'est-à-dire depuis la politique de fermeté nationale instaurée par Raymond Poincaré, eh bien, donc c'est-à-dire l'augmentation des forces militaires, le resserrement des liens avec la Russie, la marine de guerre, les avions de guerre qui ont été lancés en 1912. Bon,
la loi des 3 ans aussi.
La loi de 3 ans, voilà.
La remise au goût des lois scélérates.
Alors la remise au goût des lois scélérates en 1911, et puis également tout un tas de mesures beaucoup moins connues, mais de remise en ordre de l'armée, hein, voilà. Bon, tout ça faisait que la France a préparé activement la guerre. Voilà, elle a préparé la nation à la guerre, l'a réarmée moralement et matériellement. La France a voulu cette guerre, mais du simple fait que pendant les 10 jours de crise de juillet 14, on avait un gouvernement qui effectivement n'était pas foncièrement belliciste, hein, le gouvernement de René Viviani, c'était un gouvernement plutôt à gauche, quoi.
C'est plus le président, en fait, qui portait.
Ouais, Raymond Poincaré, qui lui président de la République, était un véritable belliciste. Mais Viviani, pas vraiment, effectivement. Eh bien, le simple fait que ce gouvernement-là, à ce moment-là, ait été, disons, un peu passif, ça a suffi à installer l'idée dans la tête des Français que, en fait, nous étions agressés. Parce que notre gouvernement n'a pas voulu la guerre, il n'a rien fait pour, on n'a fait que subir les événements. Et puis la chronologie des événements aussi a fait qu'on a pensé que... Alors qu'en réalité, c'est la Russie qui a... Enfin, c'est compliqué. C'est l'Autriche-Hongrie qui a déclaré la guerre la première à la Serbie, mais ensuite, la Russie n'était pas obligée de déclarer la guerre à l'Autriche-Hongrie. Bref, l'enchaînement des événements était tel que la France s'est retrouvée entraînée dans la guerre. Voilà. Et que pour la grande majorité des Français, cette guerre, nous étions la nation agressée. Et que donc, le gouvernement était pacifiste. Et le discours du PS à ce moment-là, c'était notre gouvernement est pacifiste, il faut le soutenir.
Et c'est la faute de l'Autriche-Hongrie aussi. Et puis,
ça, c'est arrivé un peu plus tard. En fait, c'est-à-dire que pour le PS, dès le départ, effectivement, dès le départ, le PS souligne la responsabilité de l'Autriche-Hongrie, hein, c'est clair, et donc désigne un ennemi, déjà au départ. La CGT va mettre quelques jours de plus, puisque dans son premier éditorial au début de la crise, Léon Jouot dénonce, lui, les impérialismes rivaux qui, depuis plusieurs années, préparent l'entre-égorgement des peuples. Il renvoie tous les États dos à dos, hein, Léon Jouot, dans son premier édito, en disant attention, c'est très bien. Parce que ça faisait des années qu'on débattait de ces questions-là. Et ça faisait des années que, dans les milieux révolutionnaires, on disait, dans une guerre moderne, il est impossible de savoir qui est l'agresseur et qui est l'agressé. Parce qu'en fait, par le jeu de, en utilisant le nationalisme des foules, en utilisant la presse aux ordres, en utilisant des combines diplomatiques, il y a toujours moyen de réussir à démontrer que c'est l'autre qui a commencé. Mais ça, c'est pas possible. On peut pas tomber dans ce piège-là. On peut pas tomber dans ce piège-là. Et quand on sait que pendant des années, le mouvement ouvrier français a combattu les mesures militaristes et bellicistes de la France, on peut pas dire que on tombait des nues en juillet 14. Hein, on savait que la France préparait la guerre. Et donc, au départ, effectivement, Léon Jouot et la CGT refusent de choisir leur camp. Ils renvoient toutes les puissances dos à dos. Ce n'est que progressivement, et notamment à partir du 28 juillet au soir, que la CGT, effectivement, lâche une phrase lourde de conséquences dans ses communiqués, puisqu'elle dit que l'Autriche portera une lourde responsabilité devant l'histoire. C'était déjà, quelque part, le premier jalon vers le ralliement à un camp qui était celui de la défense nationale, quoi. Voilà. Mais le PS, lui, dès le départ, en fait, a soutenu le gouvernement tambour battant. On est dans une forme, si vous voulez, d'union sacrée pour la paix, hein, donc collaboration avec le gouvernement, pour défendre la paix. Mais dès qu'on basculera dans la guerre, de la même façon que le PS l'avait dit, hein, ne l'avait jamais caché, c'était encore l'objet d'un éditorial de Jean Jaurès le 18 juillet, hein, eh bien, on a basculé de l'Union sacrée pour la paix à l'Union sacrée pour la guerre. Dans son éditorial du 18 juillet, c'est-à-dire 7 jours avant l'ultimatum autrichien à la Serbie, Jaurès écrivait en une de l'Humanité, pour il répondait ça par rapport à une polémique que menaient les journaux bourgeois contre lui. Jaurès écrivait: il n'y a aucune contradiction entre le combat pour la paix tant qu'on le peut, et puis le jour où on bascule dans la guerre, le combat pour la défense de l'intégrité et de l'indépendance nationale. Voilà.
Oui, même Édouard Vaillant d'ailleurs va s'y rallier.
Ah bah, Édouard Vaillant, lui, Édouard Vaillant, ancien communard de surcroît, lui, il a jamais dit le contraire. Mais aucun dirigeant socialiste important. Oui. Seul Gustave Hervé, à un moment donné, avait dit on ne peut pas choisir un camp parce que ce sera forcément une guerre impérialiste.
Mais il a changé d'avis.
Il a changé d'avis. Ouais, tout à fait. Il a changé d'avis, comme beaucoup de dirigeants socialistes, en fait. Il se référait, Gustave Hervé, enfin en tout cas dans la prose qu'il a employée à ce moment-là, il se référait beaucoup à la défense républicaine, Valmy 1792, ouais. les armées impérialistes qui attaquent la France républicaine. Voilà. Et le titre de la guerre sociale au lendemain de la mort de Jaurès, c'est: ils ont assassiné Jaurès, nous n'assassinerons pas la France.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Effectivement, du coup, il y a eu effectivement le alors le bah évidemment le Parti socialiste, lui, après avoir soutenu d'une manière finalement qui était peu stratégique, enfin en tout cas s'il avait vraiment pour objectif la paix, de suivre le gouvernement, de collaborer avec le gouvernement qui finalement n'a rien, enfin qui finalement, disons que l'État français préparait clairement la guerre, le président préparait clairement la guerre, et le gouvernement ne faisait évidemment rien contre, et donc du coup, la stratégie socialiste a été en tout cas une catastrophe. Mais par contre, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'au contraire, il y a eu quand même, jusqu'au dernier jour avant la guerre, une forte contestation, notamment de la CGT, mais aussi des anarchistes, mais aussi des ouvriers, et jusqu'à des... Ça a réuni jusqu'à des dizaines de milliers de personnes. Il y a eu quand même une contestation très forte de la marche vers la guerre.
Alors, il y a eu une contestation qui a... En fait, la crise européenne de juillet 14 est quand même d'une rapidité, d'une brutalité extrême. C'est d'ailleurs en bonne partie la cause de l'impuissance du mouvement ouvrier à agir, parce qu'il va y avoir véritablement un phénomène de sidération. Et donc, la crise, elle dure 11 jours. Elle démarre dès le départ avec un niveau d'alerte très élevé, puisque dès le départ c'est un pilier du système européen, l'Autriche-Hongrie qui menace d'entrer en guerre. Donc on n'est pas dans des états périphériques là, hein. Et donc il y a une rapidité, une brutalité de la crise tout à fait sidérante. Donc on a peu de temps pour organiser la riposte, hein. Et il va y avoir une riposte organisée de façon immédiate, c'est la bataille syndicaliste, le quotidien de la CGT qui va appeler le peuple de Paris à descendre dans la rue pour protester contre la guerre. Et ça va marcher, hein, puisque l'édition du matin ou de 17h, même je sais plus, de la bataille syndicaliste appelle le peuple à descendre dans la rue, à 21h, il y a 100 000 personnes. Donc c'est avec des bagarres dans tout Paris, toute la nuit, avec les flics, enfin c'est quand même très violent. Mais il y a un revirement, c'est pas, enfin, est-ce qu'on peut parler de revirement? Il y a un moment donné où le lendemain, le soir, le 28 juillet au soir, la CGT, la direction confédérale CGT, renonce à l'action. Enfin, ils renoncent à appeler à la grève générale parce qu'ils le sentent pas. Ils pensent que ça va pas marcher. Alors, il y a plein d'explications à cela, hein, que je donne.
Il y a l'intox, effectivement, l'intox du Parti Socialiste.
Il y a l'intox du PS, il y a l'intox du gouvernement qui annonce que le lendemain, à 6h du matin, il y aura une rafle de 800 personnes sur la base du Carnet B. Donc, en fait, oui, les militants pensent que le lendemain, ils vont être arrêtés pour être fusillés ou au pire, enfin au mieux, jetés en prison. Donc ça calme un peu les ardeurs. Mais plus que... Parce que moi, je pense pas tant que c'est un déficit de courage, hein, de la part des militants. Mais ça rentre en ligne de compte, bien sûr. Mais c'est aussi une cause... Il n'y a pas que des causes exogènes, je dirais. Il y a aussi une cause endogène à cette impuissance à agir de la CGT, c'est que, et ça je le raconte un peu dans le livre, c'est qu'en fait quand on est en juillet 14, ça fait un an que la CGT traverse une crise extrêmement violente, crise d'effectifs, crise morale, avec une zizanie interne, une atmosphère empoisonnée, et puis une crise d'effectifs qui fait qu'elle a peut-être perdu un tiers de ses effectifs entre 1912 et 1914, et que du coup la CGT en fait se retrouve en très très mauvaise posture. Quand si on compare par exemple avec les deux crises européennes qui auraient pu mener à la guerre dans des circonstances analogues, c'est-à-dire été 1911 et automne 1912, ce sont des crises qui ont duré plusieurs semaines et face auxquelles la CGT a réagi avec beaucoup de détermination puisqu'elle a été jusqu'à organiser une grève générale préventive en décembre 1912. Bon. Mais quand on arrive en juillet 14, non seulement c'est la crise européenne la plus brutale des trois, puisqu'elle dure que 10 jours, mais en plus la CGT est moins que jamais en mesure d'y faire face, elle est vraiment très affaiblie. Voilà. Et je pense qu'en fait, elle a été cueillie au pire moment pour elle.
Oui.
Réellement. Oui. Elle a été cueillie au pire moment pour elle. Mais on voit que jusqu'au dernier moment, presque, les dirigeants de la CGT espèrent pouvoir rebondir. Il y a par exemple une entrevue que je raconte entre le PS et la CGT qui se tient le 30 juillet au soir, ou le 30 juillet en fin d'après-midi.
C'est ça.
Donc, c'est-à-dire que c'est le jour.
Jeudi.
C'est-à-dire que Jaurès sera assassiné quelques heures plus tard.
Hein. Ouais. Mmh.
Et donc, lors de cette entrevue, les dirigeants de la CGT et ceux du PS discutent d'organiser un grand rassemblement de protestation contre la guerre au Pré Saint-Gervais, comme ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises en 1913, rassemblant 100 000, 150, 200 000 personnes. Voilà. Dans l'idée de la CGT, réussir un grand événement comme ça, c'est un petit peu se préparer à l'action, préparer la classe ouvrière à l'action, et s'efforcer de maintenir une disponibilité à l'action, quoi, disons. Voilà. Or, les dirigeants du PS temporisent. Les dirigeants du PS, alors là, les militants de la CGT veulent un grand rassemblement de protestation le 2 août. Les dirigeants du PS disent mais non, attention, nous ne sommes pas si pressés, ils temporisent. Ils veulent le 9 août. Pourquoi le 9 août ? Parce qu'en fait, il va y avoir un congrès socialiste international qui est convoqué à Paris le 9 août. Donc eux, ça les intéresse parce que ça leur permettra d'avoir un rassemblement populaire gigantesque en même temps que le congrès socialiste, et donc ils seront dans la lumière, quoi. Voilà. Et en même temps, ils utilisent l'argument l'intox du gouvernement, quoi. Et ils disent, vous inquiétez pas, de sources gouvernementales sûres, puisque voilà, on a nos entre-gouvernements, de sources gouvernementales sûres, la crise européenne va durer encore au moins 3 semaines, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, aucune raison de s'affoler, voilà, si on réagissait trop vite, on donnerait une impression de panique, il faut au contraire pas faire ça. Et là, curieusement, bon, et ça pour moi, ça reste un peu une énigme, mais là, curieusement, les dirigeants de la CGT, ils acceptent. Ils disent, bon, d'accord, on fera pas le 2 août, on fera le 9 août, alors que c'est un cadeau énorme au PS. C'est un cadeau énorme au PS, et que 3 jours avant, ils ont mis 100 000 personnes dans la rue, la CGT. Donc, ils auraient la capacité de faire un truc sans le PS. Mais ça s'explique peut-être par la raison que j'évoquais tout à l'heure, cette crise profonde de la CGT qui fait qu'elle a perdu confiance en elle à ce moment-là et qu'elle a perdu confiance dans sa capacité à réussir vraiment à mettre autant de monde comme ça. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, ce jour-là, le 30 juillet, ils disent bon, d'accord, ok, au PS pour faire le rassemblement le 9 août. De toute façon, dans les deux cas, il était trop tard. Puisque Jaurès est assassiné donc le 30 juillet, la mobilisation générale c'est le 31 juillet, je crois, hein, c'est ça. Et la guerre, dès lors qu'il y a la mobilisation générale, la guerre est en route, quoi.
Oui, et effectivement, c'est vrai que lorsqu'en 1911 et 1912, donc 1911 c'est la crise d'Agadir, c'est l'Allemagne et la France vont pas s'affronter, mais disons vont avoir des menaces de guerre entre la France et l'Allemagne à propos du Maroc. En 1912 c'est la crise des Balkans avec une guerre généralisée dans les Balkans. D'abord des États des États des Balkans contre l'Empire ottoman, puis avec d'autres rebondissements. Mais c'est vrai que effectivement la mobilisation alors avait été extrêmement forte, une mobilisation qui non seulement contre la guerre mais aussi qui est antimilitariste et qui va se poursuivre avec la loi des 3 ans qui va être quand même combattue de manière assez assez sérieuse, quoi. C'est-à-dire on n'est pas, l'État français est pas non plus a pas non plus vu c'était pas non plus un long fleuve tranquille qui a préparé la mobilisation en 1914, mais c'est vrai que cette crise de la CGT, l'intox gouvernemental qui est relayé par le Parti socialiste la rapidité de la crise vont, et surtout le fait que l'État français a su très très habilement manier le bâton et la carotte. La carotte en disant si vous ne bougez pas, on n'appliquera pas le carnet B. Effectivement, il sera relativement un peu appliqué, uniquement aux anarchistes d'abord, et puis uniquement à certains anarchistes, et puis en plus et ensuite ensuite il sera quasiment peu appliqué
en fait.
Dans un seul département. Et le bâton d'un autre côté l'épée de Damoclès d'une décapitation du syndicalisme comme en 1908, mais là à puissance 10 puisque c'est potentiellement une guerre européenne. Et du coup, malgré tous les efforts de ce mouvement de contestation qui a réuni quand même des foules très importantes, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes, malgré un fort antimilitarisme dans le mouvement ouvrier, malgré tout, il va y avoir effectivement à partir du... Le basculement va se faire début août, quasiment tout est plié, puisque avec la mort de Jaurès, le gouvernement très habilement récupère la mort de Jaurès en faisant une union, en faisant un événement d'unité nationale, et ensuite c'est l'Allemagne qui déclare la guerre à la France. En réaction à parce qu'il sait que la France veut faire une guerre très rapide d'offensive.
De toute façon, la France a mobilisé le 1er août. Voilà. La mobilisation signifie la guerre. Voilà. Contrairement à ce que disait le gouvernement, qui disait la mobilisation n'est pas la guerre. C'est faux. Enfin, la mobilisation, c'est la guerre.
Oui, c'est la guerre, étant donné le plan français qui vise à attaquer, à ruer dans les brancards et à foncer vers l'Alsace.
Dès qu'il y a eu la mobilisation... en gros, c'est l'état-major qui était aux commandes et les troupes françaises ont foncé vers la frontière aussitôt.
Voilà. Et donc du coup, grâce à beaucoup d'intox du coup du gouvernement français qui on avait fait avant et on en fera beaucoup après, marche vers la guerre et marche vers une hécatombe qui va décimer non seulement la population. Bon, qui va non seulement faire des millions de morts, mais qui va aussi décimer le mouvement révolutionnaire, le décimer, disons l'affaiblir un petit peu. Avant, disons 1917-1920, où il va y avoir un regain quand même fort du mouvement révolutionnaire. Et puis après, mais ça c'est une autre histoire, le mouvement révolutionnaire va être en partie malheureusement, enfin en tout cas on peut le déplorer ici, capté par la Troisième Internationale, le marxisme-léninisme et tout ça. Mais bon, ça ce sera pour une autre fois. Bon en tout cas, merci Guillaume de nous avoir livré ce panorama assez exhaustif quand même, hein, parce qu'on a quand même raconté une bonne partie du bouquin. Mais pour ceux qui resteraient sur leur faim après 2 heures d'émission, on vous invite donc à lire Trop jeune pour mourir, ouvrier révolutionnaire face à la guerre 1909-1914 aux éditions L'Insomniac et Libertalia. Merci Guillaume.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.